Grand Angle sur Radio Orient. Bienvenue dans ce numéro de Grand Angle. Les chefs d'État américains et russes se retrouvent ce vendredi en Alaska afin d'évoquer le conflit en Ukraine. Une rencontre qui se tiendra sans le président ukrainien ni les Européens. Récemment, le président américain a dit vouloir organiser une rencontre entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même presque immédiatement après sa rencontre avec le président russe ce vendredi.
Certaines choses peuvent être acquises lors de la première rencontre, mais elles préparent le terrain pour une seconde réunion. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump lors d'un échange avec la presse. Il a ajouté « J'aimerais le faire presque immédiatement et nous aurons rapidement une seconde rencontre entre le président Poutine, le président Zelensky et moi-même s'ils veulent que je sois là. » Le président américain a cependant déclaré qu'il pourrait renoncer à organiser cette seconde rencontre en fonction de la teneur de son tête-à-tête avec Vladimir Poutine ce vendredi sur une base militaire américaine en Alaska. Il a également averti que la Russie ferait face à des conséquences très graves si elle n'acceptait pas de mettre fin à la guerre. Il n'a cependant donné aucun détail sur ces conséquences. Volodymyr Zelensky a pour sa part déclaré que l'obtention d'un cessez-le-feu immédiat en Ukraine doit être le thème central de la discussion entre Trump et Poutine avant d'être reçu ce jeudi par le Premier ministre britannique. Le président ukrainien a assisté à une réunion préparatoire en visioconférence avec le chef de la Maison Blanche et les dirigeants européens. Une réunion qui s'est très bien passée, a tenu à faire savoir le président américain.
Alors pourquoi le choix de l'Alaska lors de ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Réponse avec le général Dominique Trinquant, expert reconnu en relations internationales.
Alors le choix de l'Alaska est assez symptomatique de la position américaine et russe, puisque l'Alaska était un territoire russe qui a été cédé aux États-Unis en 1867. Et je pense que c'est une façon à la fois pour les Russes et pour les Américains, de Donald Trump, de montrer que rien ne peut résister à des échanges financiers entre pays.
D'accord. Vous pensez que le choix de l'Alaska est aussi une victoire de la propagande russe?
Alors, je ne sais pas si c'est une victoire de la propagande russe, mais la Russie va chercher à démontrer que M. Trump n'a pas la même position que les Européens ni que les Ukrainiens et est prêt à discuter directement avec M. Poutine. Donc, c'est comme ça que la propagande russe essaiera de montrer les choses. Maintenant, la réalité des choses, c'est que effectivement, il faut discuter avec Poutine et surtout pour M. Trump, il s'agit pour lui de se rendre compte de la réalité de la position de M. Poutine. Parce que pour l'instant, il n'y a que M. Wilkoff qui a rencontré M. Poutine. M. Wilkoff est certainement un très bon agent immobilier. Mais si vous voulez, l'Ukraine et la Russie, ça ne se résume pas à un échange entre un immeuble de la 3e ou de la 4e avenue, ni à une partie de golf avec le président. Et donc, il est important que, de visu, de lui-même, le président Trump réalise qui est M. Poutine aujourd'hui et comment il est absolument rigide et refusera de faire aucune concession.
Vous pensez que Poutine pourrait recevoir un accueil frisqué en Alaska?
Écoutez, la Maison Blanche vient de déclarer que cette séquence en Alaska était une séance d'écoute pour M. Trump. Donc on voit déjà qu'on s'éloigne un peu d'un accord.
Notez également l'absence de pays européens à ce sommet. Comment on peut l'expliquer?
Écoutez, ça vraiment c'est un sujet que je trouve totalement secondaire. Aujourd'hui, les Européens ont fait un travail remarquable. Depuis 7 mois, regardez l'évolution de la position de M. Trump. Et cette évolution, elle est due essentiellement à la pression des Européens mise sur M. Trump. Entre ce qui s'est passé à la Maison-Blanche et puis ensuite la réunion au Vatican avec M. Zelensky, il y a un monde de différence. Et les propositions faites par M. Trump, qui est probablement d'aggraver les mesures à l'encontre de la Russie, voire même sa déclaration à propos des 2 sous-marins nucléaires, montre qu'il y a une évolution considérable. Et on le doit aux Européens. Donc que les Européens soient pas présents in situ en Alaska n'est pas très grave à partir du moment où leur voix est entendue.
On observe ces derniers temps un changement d'attitude de Vladimir Poutine. Comment on peut l'expliquer?
Alors, M. Poutine, bien sûr, gagne du terrain. Mais il se rend compte que sur le long terme, il va avoir du mal. D'abord, on parle toujours du terrain, on parle jamais des frappes qui ont lieu dans la profondeur. Je regardais ce matin encore les informations, des frappes ukrainiennes faites dans la profondeur sur des sites logistiques et de munitions russes. Et donc, il sait que sur le long terme, il va avoir des difficultés. L'économie russe n'est pas en bon état non plus. Donc, il faut négocier, même si aujourd'hui, sa position de négociation est extrêmement difficile, puisqu'il ne veut pas revenir en arrière sur l'annexion des 5 oblasts, si j'inclus bien sûr la Crimée là-dedans. Il ne les occupe pas, alors qu'il a décidé qu'elles étaient russes depuis le mois de décembre 2022. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il trouve une solution.
Alors, vous avez en partie répondu à ma prochaine question, mais est-ce qu'on peut dresser un constat de l'état des forces russes aujourd'hui ?
Alors, les forces russes, jusqu'à avant-hier, grignotaient difficilement du terrain dans la région du Donbass. Quand je dis jusqu'à avant-hier, c'est parce que la région de Kosprost, qui semblerait qu'il y ait une percée d'une vingtaine de kilomètres de forces russes. Mais il faut se méfier, je crois que ce sont plutôt des forces spéciales russes qui se sont infiltrées et qui préparent le terrain pour d'autres forces russes. Donc aujourd'hui, l'important, c'est la réaction ukrainienne qui a envoyé des unités Azov pour boucher le trou, ce qu'il faut dire, et on verra ce qui se passe dans les jours qui viennent. Mais il est certain que l'Ukraine manque d'hommes, et donc malgré toute sa volonté et son efficacité dans le domaine des nouveautés avec les drones, elle a du mal à contenir la pression russe et que la Russie grignote petit à petit du terrain, mais au prix de pertes très importantes.
C'était le général Dominique Trinquant, expert reconnu en relations internationales. Il a été aussi chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York. Merci de nous avoir suivis dans Grand Angle.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.